Le journal Corinne Audouin, bonsoir.
Bonsoir. La crise diplomatique continue de flamber entre la France et ses alliés australiens et américains après la rupture du contrat d'achat de 12 sous-marins français pour contrer la stratégie américaine dans la région Indo-Pacifique. Le Quai d'Orsay annonce qu'il va renforcer ses liens avec l'Inde. Notre-Dame sauvée, cette fois c'est officiel, les travaux de sécurisation de la cathédrale sont terminés. La restauration va pouvoir commencer. Les explications de Rémi Brancato dans ce journal. Avant la réouverture de Notre-Dame en 2024, des milliers d'églises, d'usines, musées ou jardins ouvrent leurs portes ce week-end pour les journées du patrimoine. On grimpera dans la tour Bellanda à Nice. Et puis une météo pluvieuse, ce sera les prévisions de Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Un coup de poignard dans le dos, voilà comment l'ambassadeur de France en Australie résume l'attitude de Canberra. La polémique continue d'enfler après l'annonce de l'annulation de la vente de 12 sous-marins français par l'Australie, qui préfère nouer une nouvelle alliance avec les États-Unis et le Royaume-Uni. La France fait les frais du changement stratégique américain dans la région Indo-Pacifique. Mais sur la forme, ça ne passe pas. Le rappel sans précédent des ambassadeurs de France en Australie et aux États-Unis est un symbole fort, une réaction que comprend l'ancien ministre socialiste des Affaires étrangères, Hubert Védrine. On l'écoute.
Ça veut dire que la France marque le coup après une décision qui est inacceptable, dans la forme notamment. C'est une décision brutale, presque grossière. Si le président Biden voulait vraiment changer la stratégie des États-Unis dans le Pacifique, il aurait commencé par appeler le président Macron en disant nous allons changer, on va faire jouer un rôle plus grand à l'Australie. Sur le plan nucléaire, on va monter d'un degré, donc ça aura des conséquences pour vos relations avec l'Australie. Parlons-en. Donc on peut comprendre la stratégie globale de Biden par rapport à la Chine, c'est d'ailleurs la même que celle d'Obama puis de Trump. On ne peut pas comprendre la méthode. Donc c'est un rappel à la réalité pour les Français ou les Européens sur la réalité des rapports de force internationaux. Même entre alliés, les pays n'ont pas d'amis en fait. Ça veut dire... ils rappellent les ambassadeurs, ils doivent évaluer les conséquences dans la relation bilatérale franco-américaine, dans la relation par rapport à l'Europe et dans la relation dans le temps. La France doit réagir calmement, mais très fermement.
Hubert Védrine interrogé sur France Info par David Dauba. Et puis Jean-Yves Le Drian s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères indien. Les deux hommes ont convenu d'approfondir leur partenariat stratégique, indique le Quai d'Orsay. À la tête de l'Algérie pendant 20 ans, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, dont on a appris la mort hier à l'âge de 84 ans, avait été chassé par la rue sous la pression d'un mouvement de contestation inédit, le Hirak. En 2019, l'activiste franco-algérien Samir Yayaoui s'était mobilisé contre un cinquième mandat pour Bouteflika. Son espoir alors, c'était de mettre fin à un système, une oligarchie mise en place grâce aux réserves d'hydrocarbures du pays. Samir Yayaoui, interrogé par Valérie Crova.
Cette manne pétrolière que Bouteflika a eue entre ses mains a perverti les relations politiques en Algérie parce qu'il a fait quelque chose qu'on n'a jamais connu en Algérie, c'est qu'il a créé une oligarchie liée directement à la présidence avec son clan, dont la majorité sont certes aujourd'hui en prison. En fait, ils ont installé une corruption à un niveau que l'Algérie n'a jamais connu. Nous récoltons jusqu'à aujourd'hui le résultat de cette gestion des 20 ans de Bouteflika. C'est-à-dire cette impasse politique, cette crise sociale, économique que nous vivons aujourd'hui, c'est la résultante de la gestion de Bouteflika pendant ces 20 ans. Le mal qu'a subi l'Algérie pendant son règne, aujourd'hui, nous le vivons quotidiennement sur tous les plans. Voilà la conséquence de la politique de Bouteflika.
Et la date des obsèques de l'ancien président n'a pas encore été annoncée officiellement. Ce devrait être demain au carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger où reposent ses prédécesseurs. Au son des cors de chasse et en gilets oranges, des milliers de chasseurs ont défilé aujourd'hui en France contre l'interdiction de certaines techniques traditionnelles de chasse aux oiseaux. Ils étaient près de 20 000 à Mont-de-Marsan dans les Landes pour défendre la ruralité et leurs traditions. Reportage dans le journal de 19h de Frédéric Barrère. Et puis à Lourmarin, dans le Vaucluse, c'est un défilé de potentiels candidats de la droite à la présidentielle. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin sont dans le Vaucluse pour l'université d'été d'Oser la France, le mouvement du député LR Julien Aubert. Seul Xavier Bertrand manque à l'appel. Et puis à Villeurbanne, le 79e congrès du PS a ratifié sans surprise la réélection d'Olivier Faure comme premier secrétaire. C'est l'annonce symbolique de ces journées du patrimoine, le sauvetage de Notre-Dame de Paris. 2 ans et demi après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, le général Georges Lain, président de l'établissement public qui gère ce chantier, a annoncé ce matin la fin de la phase de sécurisation du monument. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Et c'est une étape clé dans l'avancée du chantier. La cathédrale est sauvée et le chantier pour l'instant respecte les délais.
Oui, le général Jean-Louis Georges Lain, à la tête de l'établissement public en charge du chantier, l'a annoncé très solennellement ce matin devant la façade de la cathédrale. La phase de sécurisation est achevée.
La cathédrale est solide sur ses piliers, ses murs sont solides et nous allons pouvoir désormais nous lancer résolument vers cette phase de reconstruction. Nous sommes déterminés à rouvrir notre cathédrale en 2024.
Jean-Louis Georges Lain au micro de Clémentine Vergniaud sur le parvis de Notre-Dame, où l'on peut aujourd'hui et demain découvrir les métiers du chantier, les artisans de cette sécurisation. La reconstruction à proprement parler peut donc commencer. Première étape d'ici fin septembre avec le nettoyage des murs intérieurs. Viendra ensuite la restauration de l'orgue cet automne et au premier semestre 2022 le début de la reconstruction à l'identique de la flèche de Viollet-le-Duc qui s'était effondré. Aujourd'hui, c'est la machine administrative qui s'active. Les appels d'offres, une centaine en tout, ne sont pas encore publiés. Jean-Louis Georges Lain promet donc un retour des visiteurs et des fidèles à Notre-Dame en 2024 avec une cathédrale ouverte, mais dans laquelle le chantier, lui, ne sera sans doute pas tout à fait terminé.
Merci Rémi Brancato. Et en attendant 2024, ce week-end, les Français retrouvent le chemin des musées, églises, monuments de France. Ce sont les 38e journées du patrimoine après une édition 2020 annulée en raison du Covid. Beaucoup de ces monuments sont habituellement fermés au public. À Nice, Violaine Hill a pu grimper dans la tour Bélanda, au-dessus de la promenade des Anglais sur la colline du château. C'est parti pour la visite guidée de cette ancienne tour de fortification.
Ce lieu qu'on appelle la tour Bélanda, l'objet de cette visite, c'est d'évoluer au travers de l'histoire de Nice.
Ici, on raconte 20 siècles d'histoire avec des mannequins en costume. Et on pose des questions.
Est-ce que la hauteur des sujets que l'on voit, est-ce que c'était réellement leur grandeur?
C'est une très bonne question. En fait, globalement, les populations étaient moins grandes à l'époque qu'actuellement. Mais cela dépendait des individus. On est au XVIe siècle, François Ier faisait 2,02 m.
Vous saviez que François Ier était très grand?
Non, pas du tout.
Vous avez appris quelque chose?
Oui, bien sûr.
Ce voyage en costume peut se faire aussi en niçois, la langue que parle David, le guide conférencier.
Aquí, Sian, à l'âge médian, Moyen-Âge.
Les visites se font en niçois. Autant le faire en version originale quand on peut le faire, pour leur montrer que le niçois, c'est une langue, et donc on parle de tout. On ne parle pas que du port de Bagnac, la découverte du patrimoine historique.
Le petit groupe de touristes sort content, et la visite continue.
Je vais leur faire visiter le château, et puis ensuite on ira voir très certainement la Villa Marcinac. Et ensuite, je ne sais pas, on se fiera aux bonnes œuvres d'Internet, on va dire. Les journées du patrimoine, c'est super.
Le reportage de Violaine Hill, la visite guidée continue demain à la tour Bélanda. Puis en sortant, on a un magnifique panorama sur la baie des Anges. Un mot du temps pour terminer.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Et c'est plutôt pluvieux, Jean-Michel Golinski.
Peu de régions vont conserver un temps clément ce dimanche. Il s'agit du pourtour méditerranéen, mais avec un mistral, une tramontane sensible et de fortes rafales d'ouest sur la Corse. Une ambiance également agréable entre les Hauts-de-France et l'Alsace. Sur le reste du pays, il sera difficile de se passer du parapluie avec des précipitations marquées en intensité et en durée. Entre la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes et le centre Val-de-Loire, avec de la neige sur les Savoies à partir de 2200 mètres. Le tout dans des températures stationnaires par rapport à la journée de samedi autour de la Méditerranée sur les régions de l'Ouest, mais en légère perte de vitesse sur les zones de la partie Est.
Prévision signée Jean-Michel Golinski.